Chapitre 6. Les petits papiers de l'abbé Mistre. À 6 heures du matin, au petit jour, Cadet et le père antique étaient depuis longtemps partis, mais notre peintre dormait encore. L'infortuné Ballantran, cognant à la porte, l'éveilla. « Excusez, monsieur Estève, c'était pour dire à votre oncle que mademoiselle Blasi se marie. »« Parbleu, fit l'artiste, je le sais bien. »« Avec monsieur Anténor. » Anténor ? Qui ça, Anténor ? Anténor, vous savez, le neveu de l'abbé Mistre. » Et Ballandran, tandis qu'Estève s'habillait, raconta comme quoi monsieur l'abbé, traversant la ville sur sa mule, avait partout annoncé la chose. C'était résolu, conclu, fait. Tellement que l'abbé se trouvant, à cause de ce mariage, forcé de réaliser ses fonds, le traquait, lui, Ballandran, et avait juré le matin même d'être inexorable. Mais Ballandran comptait sur le père antique, son vieil ami, lequel, d'ailleurs, le tardant trail ne se vendant pas, n'avait plus de raison pour refuser. Hélas, Ballandran en était encore à la moitié de son histoire que déjà Estève avait dégringolé l'escalier et filait à grands pas dans la rue, heurtant les groupes matinaux des paysans et prêtant à rire aux commères qui, sur le bas des portes, du haut des perrons, quelques-unes d'une fenêtre à l'autre, s'entretenaient de l'événement. Estève ne voyait ni paysans ni commères et, sorti de la ville, le portail Saint-Jaume dépassé, il ne remarqua pas davantage, quoique peintre, combien le paysage à l'aurore était beau. Le soleil pointait au-dessus des roches et colorait d'un reflet rose les buis humides, les yèbles frissonnants et les étendues de lavande. L'air sentait bon, les deux rivières, comme réveillées, précipitaient leurs flots plus joyeusement. Là-haut, sur le toit du colombier d'Entrailles, unique et clair, un rayon brillait. Bien des fois, sur ses toiles, Estève avait essayé d'exprimer ces choses inexprimables. Bien des fois, n'ayant que des couleurs pour rendre la nature, et ne pouvant traduire ni ses parfums ni ses voix, il lui était arrivé, en face de pareils spectacles, de se décourager, de maudire son art. Il n'y songea point, certes, ce matin. Ce matin-là, sur la nature planait une longue et mystérieuse silhouette, la silhouette d'Anténor, et le frisson des bois, le bruit des rivières, cris d'oiseaux réveillés et battements lointains des moulins et des meules, tout le long du chemin, semblait prendre une joie malicieuse à répéter sans cesse « Anténor ! Anténor !» Ballandran n'avait pas menti. Monsieur Anténor devait réellement épouser mademoiselle Jeanne. La veille, tandis qu'on festoyait dans la maisonnette du père antique, l'abbé Mistre, s'étant invité, dînait à la table de M. Blasi. Repas maussade s'il en fut. Mademoiselle Jeanne, qui, pour sa grande demande en mariage, avait compté sur le tête-à-tête du dessert, s'impatientait et boudait. M. Blasi semblait à la gêne. L'abbé Mistre, préoccupé, demeurait rêveur entre deux plats, oubliant parfois de se verser à boire. Le café servi, mademoiselle Jeanne prétexta d'une migraine légère et se retira. Alors l'abbé Mistre avait sorti des profondeurs de sa soutane les inévitables papiers d'affaires, puis les déposant sur la table, s'était mis, onctueux et discret, à dérouler des plans, à étaler des chiffres. Depuis longtemps, la situation était grave, mais cette fois, il n'y avait pas à dire, M. Blasi se trouvait ruiné, irrémédiablement ruiné. 2 ans auparavant, tout aurait pu s'arranger encore, à la condition que M. Blasi suivît les conseils désintéressés de l'abbé Mistre. Diminuer ses dépenses, se retirer à la ville, installer à sa place un brave fermier avec sa famille de travailleurs, associer le travail des autres à son capital, se fier à leur probité pour l'égal partage des récoltes, courber en un mot sa tête de propriétaire foncier sous les fourches codines du métayage, telle eût été la solution logique, pratique. M. Blasi n'avait pas voulu écouter. Maintenant, il était trop tard. Ce bon M. Blasi croyait sincèrement s'être rendu fort utile à son pays pour quelques conseils d'agronomie transcendante jetés aux paysans railleurs par-dessus la haie en passant. Il regardait comme un point d'honneur, un devoir même, de tenir jusqu'au bout son rôle de gentilhomme, agriculteur et chasseur. Quoi ? Ne plus courir le pays, la carnassière au dos et le faucheux sur l'épaule ? ne plus faire feu de ses souliers ferrés dans les cailloux roulants des pentes, ne plus présider de comices, ne plus acclimater des poules étranges, ne plus exposer des coqs hérissés et bizarres, ne plus décacheter, au cercle, d'un doigt brusque et d'un geste imposant, le journal des chasseurs ou bien la revue agricole de la zone de l'Olivier. C'est à ce jeu que le bon monsieur Blasi, sans trop s'en douter, avait vu s'écouler sa fortune. Quelques besoins d'argent immédiatement satisfaits, grâce à l'obligeante intervention de l'abbé Mistre, de petits emprunts, puis de gros, les terres peu à peu hypothéquées, tout cela menait sans bruit, avec une discrétion ecclésiastique et notariale. Et maintenant, c'était la vente, entrailles dépecées bribe à bribe par la fourmilière des paysans. Il le fallait. L'abbé Mistre n'était point riche. Ne devait-il pas compte du peu qu'il possédait aux pauvres et à son neveu? D'ailleurs, pour rendre ses petits services, plus d'une fois, il avait emprunté lui-même. Les créanciers ne voulaient plus attendre. Et l'abbé Mistre tripotait ses petits papiers, suivant les additions du doigt, calant avec le carafon de cognac et les demi-tasses, les coins de son plan toujours prêts à se recroqueviller, tandis que, perdu dans d'amères réflexions, le pauvre monsieur Blasi regardait machinalement sur le mur de la salle à manger, entre une perdrix blanche et un lièvre noir, coup de fusil rare, le grand-duc empaillé qui ouvrait dans l'ombre ses yeux d'or. Chapitre 7. Mademoiselle Jeanne acceptera. Les gens qui habitent dans le voisinage d'une fontaine, accoutumés au bruit de l'eau, s'éveillent si, la nuit, elle cesse de couler. Tel M. Blasi sortit de sa rêverie en s'apercevant que depuis quelques minutes, l'abbé Mistre ne parlait plus. L'abbé Mistre songeait, une main sur les yeux. Puis, brusquement, il releva la tête. On pouvait s'arranger encore. N'était-il pas là, lui, l'abbé Mistre? N'aimait-il pas entrailles comme son propre bien et les Blasi comme lui-même? Ce qu'il voulait, c'était sauvegarder les intérêts d'Anténor. Mais Anténor allait sur ses 27 ans et Mademoiselle Jeanne était accomplie. Pourquoi ne pas s'entendre par un mariage que la Providence indiquait? Le mariage sauvait tout et permettait de tout régler en famille. L'abbé ferait abandon des sommes personnellement prêtées, il désintéresserait les autres créanciers, vendrait au besoin sa petite ferme et se retirerait à Entrailles auprès de cet excellent monsieur Blasi entre Anténor et Jeanne. Pour conclusion, mariage ou vente. Le père antique avait deviné juste, l'abbé, en cette affaire, jouait double jeu. La mise en parcelle d'un domaine comme Entrailles constituait, dans tous les cas, une spéculation fort productive. Et, quoique peu révolutionnaire de sa nature, l'abbé Mistre, homme de fait avant tout, n'avait jamais hésité à compléter l'œuvre de la Révolution en détaillant très cher aux paysans les biens nationaux détenus par la bourgeoisie. D'autre part, sa position à Canteperdry était en somme équivoque. Curé sans paroisse, au plus mal avec son évêque et n'ayant gardé du prêtre que la soutane, il vivait seul à la campagne avec son petit-neveu et sa nièce, Madame Ambroise, une forte brune, jadis belle. J'oubliais M. Ambroise, mari de la nièce et père putatif du jeune Anténor. Mais c'était une sorte de paysan vêtu en bourgeois, ivrogne et résigné, qui buvait et ne se montrait guère. Toutes ces choses faisaient sourire, et les dames de la ville, qui allaient volontiers, une fois par hasard, comme en passant, boire le lait chez les Mistres, ne les eussent pas, certes, reçues. L'abbé, soit, par respect pour sa soutane, mais point la nièce. En s'alliant avec la famille Blasi, si respectée, l'abbé Mistre frappait un coup décisif. Il entrait, lui et les siens, dans la haute société. Les villages ont leur haute société par la grande porte. Soutenu désormais, il poussait Anténor dans la carrière des honneurs. Maire, conseiller général, que sais-je encore? Lui-même devenait une puissance et, par avance, il se figurait le jour, jour de délicieuse vengeance ecclésiastique, où son évêque, qui depuis 10 ans tenait rigueur, serait obligé de compter avec l'abbé Mistre. À mesure que l'abbé Mistre parlait, il semblait à M. Blasi qu'on lui enlevait un grand poids de sur la poitrine. Plus d'affiches blanches, plus de ventes, plus de regards railleurs, plus d'hypocrites condoléances. Toutes ses craintes se dissipaient. Il voyait le mariage se faire, entrailles restaurées, Jeanne heureuse. Jeanne, dire que par sa faute à lui, un instant, Jeanne s'était trouvée ruinée, réduite au triste état des filles pauvres de province. Monsieur l'abbé, que du moins Jeanne ne se doute de rien. Et se versant du cognac coup sur coup, il pleurait et s'injuriait. Ah, grand enfant! Ah, vieil imbécile! Puis une idée lui vint, idée affreuse qui le fit pâlir. Mais si ma fille, si Jeanne, ne voulait pas! Mademoiselle Jeanne voudra. C'est que, voyez-vous, je connais Jeanne, fit le bonhomme subitement dégrisé et redevenu digne. Sachant nos affaires, elle se sacrifierait, se marierait contre son gré pour me sauver de la honte. Impossible! Écoutez, monsieur l'abbé, Jeanne ignore tout, se croit riche. Si elle accepte, bien. Il n'y aura pas dans Canteperdry père plus heureux que moi. Sinon, vous pouvez vendre. Jeanne restera pauvre, pauvre par ma faute, mais libre. Et que l'âme de sa mère me pardonne. Mademoiselle Jeanne acceptera, mon cher monsieur Blasi, dit l'abbé avec un regard fin. Depuis un moment, il entendait comme un bruit furtif vers la porte. Il savait que Jeanne écoutait. Chapitre 8. Estève se console. C'est la vérité, mon cher ami. Je voulais, quand j'ouvris la porte, brusquer l'abbé, tout dire à mon père. Mais si vous l'aviez vu, il était comme un enfant devant moi, pâle et tremblant, quoiqu'il essayât de sourire. Alors je n'eus plus qu'envie de pleurer. Il me demandait si j'acceptais M. Anténor pour mari, si je n'aimais personne. Je lui répondis que je n'aimais personne et que j'épouserais M. Anténor. Ne m'en veuillez pas de vous avoir évité le lendemain, quand vous êtes venu au château, mais mon père était là, dans la petite allée de groseilliers, et je craignais de ne pas être maîtresse de mes larmes. D'ailleurs, à présent, que nous dire? Oubliez-moi, Estève, depuis 2 jours, j'essaie de vous oublier. Jeanne. Eh bien, qu'y a-t-il? Interrompit le père antique, à qui, le soir, furtivement, tandis qu'il passait devant Entrailles, Mademoiselle Jeanne avait remis cette lettre. Il y a que c'est fini, dit Estève. Le père antique ne comprenait rien à tant de résignation. Doublement furieux du contretemps, pour son neveu d'abord, mais surtout pour lui-même, à cause de la belle occasion de s'arrondir qui lui échappait, il sortit de sa réserve habituelle. On le vit causer dans les rues, sous les couverts, à la grande place, un peu plus qu'il n'aurait fallu. Les autres paysans le raillèrent, l'accusant d'avoir voulu acheter Entrailles et son tort à lui tout seul, pas trop fort cependant, car chacun, s'il avait sondé sa conscience, eût pu y retrouver les mêmes secrètes ambitions. Les paysans, jusqu'à ce jour-là, s'étaient montrés, à l'endroit du château d'Entrailles, sobres de confidences mutuelles. Nul ne voulait avertir l'autre, par crainte de susciter un concurrent. Mais l'affaire une fois réglée, et tout espoir de mise en parcelle anéanti, à la Cosse, à Bourrénaud, on ne se gêna plus. On se murmura dans l'oreille que le mariage de Mademoiselle Jeanne et de M. Anténor n'était pour M. Blasi, ce songe-fête, ce mangeur, qu'un moyen de sauver sa fortune. On alla jusqu'à dire qu'il vendait sa fille. Les gens des bas quartiers, attentifs depuis si longtemps à suivre la mort lente de ce grand arbre bourgeois que rongeaient par-dessous l'écorce des insectes invisibles, avaient deviné bien des choses que la haute ville, la ville artisane et rentière, ne soupçonnait pas. Estève, lui, fatigué de ses commérages, mit un beau matin sac au dos et s'enfuit du côté de la vallée de Méouge peindre des rochers et des eaux tranquillement. De nature un peu arabe et rationnellement fataliste, la pratique de la ville avait préparé à supporter sans trop de peine les plus vives des illusions. À Aix, comme tant d'autres étudiants, trop pauvre et trop pressé de travail pour se faire une maîtresse, il s'était jeté dans la débauche. Dès 30 ans, il se croyait blasé. Il n'en conservait pas moins un cœur tout neuf, une imagination naïve, et Mademoiselle Jeanne était vraiment son premier amour. Le coup fut rude pour lui, mais la guérison d'autant plus prompte. C'est avoir peu de chance pour une fois que j'essaie. Basta, se dit-il, on n'en meurt pas. Maintenant, il parcourait, sans songer à son malheur, mes houges et ses chemins en corniche, tracés à 20 mètres au-dessus du torrent, dans le vif des parois calcaires. Il regardait, d'un œil à moitié consolé, ses grands blocs roulés, ses cascades, l'eau claire sur la roche aride, et, de loin en loin, coupant la vallée à angle droit, une gorge, une double pente verte comblée de noyers et de frênes, et tapissée de prairies si fort en pente qu'elles avaient l'air de glisser. Aussi, tandis que, rue du Rioux, les paysans s'entretenaient du prochain mariage, que les bourgeois de la ville haute s'agitaient et que les artisans raillaient, tandis que l'abbé Mistre, heureux du prétexte, traquait à mort l'infortuné Balandran, tandis que le père antique, mécontent, accablait Cadet de bourrade, tandis que M. Blasi promenait, d'entrailles au cercle, son ami Ambroise, vêtu de neuf mais toujours gris, tandis que Mme Ambroise, enfin acceptée, remplissait Canteperdrie de son bruit et persécutait les couturières, tandis que Mlle Jeanne dissimulait ses tristesses et que le bel Anténor, faisant sa cour en règle, lui offrait régulièrement chaque soir d'énormes bouquets, régulièrement flétris chaque matin. Pendant ce temps, on aurait pu voir notre héros s'asseoir, la journée finie, dans quelque auberge villageoise, au banc de bois, aux tables luisantes, ou dans quelque moulin des montagnes, ébranlé par la rude secousse de la chute d'eau, et là, philosophiquement, arroser d'un verre de vin du pays une cuisse de chevreau rôti, une truite pêchée à la main, ou bien un de ces fromages si fins, gardés tout l'hiver dans la neige, et qu'enveloppe une triple couche de lavande en épi et de feuilles de noyer. Estève songeait parfois à entrailles, à M. Blasi, si bête et si bon, à Mlle Jeanne, si charmante, avec la sensation de vague et agréable tristesse qui vous reste d'un doux rêve évanoui. Chapitre 9. Les enfants sont fiers, mais les vieux peuvent s'entendre. Le père antique, lui, prenait moins bien la rupture. Sous prétexte de s'intéresser aux affaires de Balandran, il avait causé, beaucoup causé, depuis ces quelques jours, avec l'huissier ordinaire de l'abbé Mistre, et questionnant en dessous, sans en avoir l'air, plein de prudence et de rouerie, il avait fini par s'assurer de deux choses. D'abord que l'abbé Mistre, réellement, avait en main de quoi provoquer la saisie d'entrailles, que les pièces étaient prêtes, le commandement même libellé. Mais il avait compris aussi que M. Blasi n'était ruiné qu'à moitié et que, bien conseillé, après la vente, étant donné sa maison de la ville et ce qu'on sauverait des griffes des hommes de loi, il pourrait se relever encore. Cela redoubla ses regrets, sa colère. La vue du tort, disait-il, lui faisait saigner les yeux. M. Blasi l'exaspérait. De son côté, M. Blasi n'était pas sans avoir des inquiétudes. Quoi qu'il essayât de se faire illusion, il lui fallait bien s'apercevoir qu'à mesure que le mariage approchait, Jeanne devenait plus triste. Parfois, il interrogeait Jeanne. Jeanne souriait, se disait heureuse, mais, au fond, ne répondait pas. Un jour, les deux vieux, le père antique et M. Blasi, se rencontrèrent. Peut-être se cherchaient-ils, car le matin même, Estève, revenu de Méhouges, avait été surpris par le père antique, faisant ses malles, roulant ses tableaux, prêt à partir pour un long voyage. Et le même matin, M. Blasi, réveillé avant l'heure, avait vu dans le jardin, de sa fenêtre, Mlle Jeanne qui pleurait. C'est à la Garnade que la rencontre eut lieu. Un vrai paradis de chasseurs, la Garnade, avec ses grands bouquets de bois, ses pelouses semées de lavande et ses 1000 petites cavernes entre les blocs de poudingue et boulet. De tout ce qu'on avait vendu d'entrailles, la Garnade, à cause de ses rochers, était le seul coin qui ne fut pas défriché encore. M. Blasi l'aimait depuis que le mariage de Jeanne avec Anténor était conclu. Il venait y chasser quelquefois et songeait à le racheter. Assis, le dos contre un arbre, le fusil entre les mollets, ses pieds guettrés dans l'herbe pierreuse et regardant en face le soleil couchant, M. Blasi, ce soir-là, réfléchissait. Pourquoi Jeanne est-elle triste? Pourquoi pleure-t-elle ainsi toute seule? Si elle ne veut pas d'Anténor, qui donc l'empêche de le dire? Elle se croit riche, toujours, à même de choisir, et me sait bon, incapable de la violenté. Peut-être en aime-t-elle un autre? Un autre? Mais qui, alors? On n'allait que rarement à la ville, la jeunesse dorée de Canteperdrie ne venait jamais au château. Puis, se rappelant tout d'un coup Estève, ses visites fréquentes avant le projet de mariage, et subitement interrompues depuis, « Double brute » s'écria-t-il. À ce cri, un lapin attardé, que Blanche en l'air, fila d'un buisson. Emporté par son instinct de chasseur, M. Blasi visa, tira, tua. Et, tandis que le chien s'ensanglantait les babines à rapporter la bête morte, M. Blasi, se rasseyant, continuait. « Oui, double brute, c'est le mot. Double brute, et même triple brute, de n'avoir pas deviné déjà qu'il s'agissait d'Estève. » Au coup de fusil, le père antique, qui guettait M. Blasi, apparut. « Bonsoir, père antique, je ne suis pas fâché de vous voir. »« Ni moi non plus, M. Blasi. Bien le bonsoir, M. Blasi. » Voici bien longtemps qu'on a rencontré votre neveu, père antique. Amoureux comme il est, monsieur Blasi, mettez-vous à sa place. Amoureux ? Amoureux, oui. Et vous savez de qui, monsieur Blasi ? Conclut le père antique en s'asseyant, lui aussi, dans les cailloux et l'herbe. Alors une conversation sérieuse et lente commença. Monsieur Blasi dit ses soupçons, le père antique ce qu'il savait. Évidemment, Jeanne aimait Estève, Estève aimait Jeanne. En ce cas, pourquoi restait-il ainsi buté? Pourquoi ne disait-il rien? Les enfants sont fiers, monsieur Blasi. Oui, père antique, les enfants sont fiers, mais les vieux peuvent s'entendre. Chapitre 10. Comme quoi le tort d'entrailles fut vendu. Les vieux s'entendirent. Deux ou trois jours après cette conversation, mademoiselle Jeanne était au jardin, regardant ses passeroses s'effeuiller à la brise matinale et les lourds temps rayés se rouler dans le pollen des fleurs. Quelqu'un sonna, Estève, à qui M. Blasi ouvrit la grille. Estève s'excusa. Il partait le soir même pour un long voyage et n'avait pas voulu quitter Canteperdry sans faire une visite au château. Mademoiselle Jeanne pâlit. Estève semblait embarrassée. M. Blasi se contenta de sourire. Un peu plus tard, arrivait le père antique, comme par hasard, sous prétexte de se procurer des greffes. « Tiens, te voilà, mon neveu. Eh, bonjour, mademoiselle Jeanne !» Puis, hochant la tête et clignant son œil fin d'un air qui signifiait « Ça marche, tout est prêt !» il ajouta « Bonjour, monsieur Blasi !» Monsieur Blasi souriait toujours. On retint le père antique à déjeuner. Il résista, alléguant son costume, montrant ses guêtres, mais cela sans conviction pour la forme. « Enfin, puisque vous le voulez, heureusement que j'ai passé une chemise blanche ce matin. » Or, il avait mis exprès, le brave homme. Pendant le déjeuner qui fut long, les jeunes gens parlèrent peu. Ils se boudaient, donc ils s'aimaient encore. Et chacun reprochait à l'autre, intérieurement, de s'être, après tout, bien vite résigné. Mais le père antique et M. Blasi se montrèrent très gais, trinquèrent beaucoup et se firent force signe par-dessus les plats. Vous eussiez dit, sauf leur âge, deux écoliers attendant l'effet d'une bonne farce. Et je ne jurerais pas qu'au dessert, l'un et l'autre ne fussent pas gris légèrement. Voyez, mais voyez donc, M. Blasi, on dirait qu'il se passe quelque chose. En effet, depuis un moment, il se passait quelque chose au plus bas tort. Les paysans, dans leurs parcelles, s'arrêtaient de travailler et regardaient, un pied sur leur bêche, quelqu'un vêtu de noir qui montait le chemin d'entrailles. Ils s'appelaient, causés par groupe. « C'est peut-être la Révolution, » dit en riant le père antique. « Non, c'est l'huissier, » répondit tranquillement M. Blasi. L'huissier entra, apportant un papier timbré. L'an 1800... Le 19 mars... En vertu de la grosse dûment exécutoire des divers actes dûment passés chez Maître Sub, notaire à Canteperdry, dont la copie est jointe à ses présentes, et à la requête du sieur Mistre, Hilarion, prêtre libre. Bref, l'huissier déclaré faire commandement au sieur Blasi de, dans 30 jours pour tout délai, payer au dit sieur Mistre, ou présentement à son huissier, la totalité de ses créances, ajoutant que, faute de paiement, il y sera contraint par toute voie de droit, notamment par saisie réelle de ses immeubles, et spécialement de la maison où il demeure, hypothéqué et affecté, au paiement en principal et accessoire du montant des susdites obligations. « Ma foi, Jeanne, dit M. Blasi, nous voilà ruinés. Tu vois que ce n'est pas difficile. » Et comme Jeanne ne comprenait pas, « Mon Dieu, oui, monsieur votre père, tout cerveau fou qu'il soit, avait deviné vos calculs. Tu te sacrifiais pour moi, tu n'entendais pas qu'on me vendît mes rochers et mes lapinières. La vente, mais si entraille se vend, il en mourra, le vieux bonhomme. La vente est faite et le vieux bonhomme n'est pas mort. C'est moi qui l'ai voulu ainsi. Demande au père antique mon complice. C'est moi qui, sans rien dire, ai rompu avec les Mistres et les Ambroises. Maintenant, les huissiers sont en campagne, tout compte perdri, c'est la chose. Mes amis cancanent au cercle et les acquéreurs comptent leurs piécettes. C'est qu'elle s'obstinait, la petite têtue. Et tu croyais que j'accepterais ? Allons, Jeanne, ne pleure pas, avoue que tu avais mal, bien mal jugé ton père, et viens vite lui demander pardon. » Puis, l'embrassant, « Que me faut-il pour être heureux ? Te savoir contente, un chien, un fusil et deux œufs durs dans ma carnassière. Je te demande pardon aussi, Jeannette, de te laisser pauvre par ma faute. Mais cela ne fait rien, n'est-ce pas ? Celui que tu aimais quand tu te croyais riche te voudra bien encore aujourd'hui que tu ne l'es plus. « Estève, entends-tu cela ? » dit le père antique en poussant son neveu du coude. Estève prit la main de Jeanne. « Décidément, mademoiselle, il était écrit que ce serait moi qui ferais la demande en mariage. » Cependant, de tous les côtés, au plus bas tort, on voyait les paysans, assurés cette fois de la nouvelle, quitter le travail à mi-journée et redescendre vers Canteperdry, pressés qu'ils étaient de se mettre en mesure pour la vente. « Et vous, père antique ?»« Oh, moi, mes précautions sont prises. »« Tiens, tiens, mais c'est le jour du papier timbré, semble-t-il. » L'huissier s'arrête, fait signe à un homme, lui donne une feuille. C'est Balandran, parbleu. L'abbé Mistre et sa nièce sont furieux. Balandran passera leur colère. Pauvre Balandran, fit en trinquant M. Blasi. Eh bien, non, s'écria le père antique. Je ne sais pas si votre vin vieux m'a grisé. Balandran est mauvaise paix. Mais aujourd'hui, vive la joie. Je lui prêterai ses 100 écus.